Vous êtes sur RTL.
Commun. RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
On va faire un point pour commencer, si vous le voulez bien, sur le prélèvement à la source, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que les ménages qui bénéficient d'un crédit d'impôt, que ce soit pour une garde d'enfants, un emploi à domicile ou un don à des associations, vont percevoir le premier acompte de 60% du montant de leurs dépenses. Ça concerne combien de Français ?
Alors, ça concerne 9 millions de foyers fiscaux, donc potentiellement 17 à 18 millions de Français, qui vont recevoir pour plus de 5,5 milliards d'euros que l'État va leur donner en avance, le crédit d'impôt, pour en moyenne 628 euros chacun.
Bah, c'est à peu près pareil que l'année dernière, en fait.
C'est à peu près pareil que l'année dernière. Ça marchera aussi bien que l'année dernière. C'est quand même un gain de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Une avance de trésorerie pour eux. Ils auraient dû attendre beaucoup de temps si jamais le système de l'impôt à la papa existait encore. Et puis ça permet effectivement de pouvoir répondre à l'interrogation des Français, c'est-à-dire que l'État garde le moins possible l'argent qu'il leur doit. C'est le cas aujourd'hui avec l'impôt à la source.
Juste une question sur ce dont les situations changent. Un enfant qui n'a plus de garde, par exemple, ils vont devoir rembourser.
Alors, si jamais votre crédit d'impôt, alors évidemment, le crédit d'impôt, on a pris vous les avez cités, ceux qui sont récurrents, ceux qui ont le plus de chances d'arriver chaque année. Si pour une raison ou pour une autre, vous donnez moins d'argent à une association une année sur l'autre, si effectivement votre enfant n'a plus besoin de garde d'enfant, effectivement, soit vous l'avez vous-même déclaré auparavant, vous pouvez faire cette démarche auprès des services fiscaux sur impots.gouv.fr, qui est un site internet qui fonctionne très bien et en temps réel, soit effectivement, on vous remboursera les 40% qui restent de crédit d'impôt à l'été, soit on vous les réclamera, comme l'année dernière. Mais les Français peuvent évidemment annoncer la fin de leur crédit d'impôt, donc c'est très pratique, très efficace. Moi, je voudrais souligner le fait que ce prélèvement à la source, puisqu'on en est désormais à plus d'un an, a bien fonctionné, grâce notamment aux agents des finances publiques, grâce aux entreprises de France, que je remercie, et je constate d'ailleurs avec satisfaction, pour eux, pour les entreprises, comme pour les agents publics, que c'est la réforme plébiscitée. Si je lis les sondages d'opinion des Français, et comme quoi il ne fallait pas avoir si peur que ça l'année dernière, et je remercie tous ceux qui, comme RTL et ailleurs, ont fait de la pédagogie.
Alors, je viens de vous entendre parler d'avantages fiscaux à l'instant. Vous dites souvent avec force que les impôts baissent, mais ce n'est pas ce que dit l'OCDE, Gérald Darmanin. Nous sommes les champions en matière de prélèvement.
C'est pas incompatible. On peut avoir des impôts plus élevés, quasiment les plus élevés des pays capitalistes. Et puis par ailleurs, même si on les baisse, continuer à avoir que nous sommes parmi les pays qui imposons le plus. Donc le président de la République est celui qui baisse le plus les impôts de tous les gouvernements que nous avons connus sous la Ve République, puisque à la fois l'impôt des entreprises, mais aussi l'impôt des ménages, les Français le verront, notamment grâce à l'impôt à la source, à la fin du mois de janvier. Les retraités l'ont vu en début de mois. Et il faut sans doute continuer cette baisse d'impôts. Alors, mais pourquoi on a des impôts très élevés? C'est aussi une question qu'il faut se poser, qu'on s'est parfois posée lors du grand débat. Parce qu'on a un système de dépenses publiques, et singulièrement de dépenses sociales, aussi les plus élevées.
Vous dites une chose et son contraire, là, à l'instant. Vous dites qu'on a des baisses d'impôts, et en même temps, pourquoi les prélèvements continuent d'augmenter?
Non, les prélèvements ne continuent pas d'augmenter. Chacun a pu constater qu'il baisse, en tout cas pour la très grande majorité des Français. Tous ceux qui gagnent moins de 2500 euros par mois ont vu, je crois, à la fois la suppression progressive de leur taxe d'habitation, ils vont voir la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est déjà le cas depuis l'année dernière, ou la baisse de l'impôt sur le revenu. Il est vrai que les contribuables à plus de 2500 euros par mois vont être les premiers, fin mois janvier, à reconnaître une baisse de leur impôt sur le revenu. Et puis les contribuables à plus de 8000 euros par mois, eux, pour l'instant, ne connaissent pas de baisse d'impôt, mais ils vont reconnaître à la fin du quinquennat avec la suppression de leur taxe d'habitation. Mais cette masse d'impôts très importante, qui est un peu une exception française, effectivement, dans le concert européen, dans le concert des pays capitalistes.
On reste le pays dans lequel la part des impôts est la plus élevée, à plus de 46% PIB.
On reste parmi les pays qui a une économie de marché, parce qu'il y a plein de pays qui ont un système un peu différent du nôtre, qui taxent bien plus les contribuables. Mais nous sommes aussi le pays qui a la plus grande protection sociale.
Nous sommes aussi donc on ne peut pas avoir une bonne protection sociale sans forcément la payer.
La protection sociale, c'est par exemple la dépense. On a un pays qui dépense parmi les pays le plus sur l'armée. Parce que nous avons, nous en Europe, les seuls désormais, puisque les Anglais sont partis, la dissuasion nucléaire. Nous sommes un pays qui mettons beaucoup d'argent, notamment dans le système des retraites. 14% de notre richesse nationale, chacun le dit. Alors, c'est un choix de société. Et la politique, c'est fait pour en discuter, justement. Alors, il y a des gabegies. il faut les limiter. Il y a sans doute des baisses de dépenses publiques, il faut les mettre en place. J'en ai mis quelques-unes en place à la demande du président de la République. Et puis, il y a aussi, effectivement, une protection sociale à payer. Et donc, c'est un débat de société qu'on doit avoir ensemble.
Si vous le voulez bien, abordons le dossier des retraites. Le président vous demande de continuer à expliquer. Une conférence de financement va débuter dans les semaines qui viennent pour assurer l'équilibre financier de la réforme. Les syndicats ont évoqué plusieurs pistes. Je voulais vous soumettre la hausse des cotisations salariales, par exemple. Vous dites oui ou vous dites non ?
Non, mais ce n'est pas à 7h50, malgré la qualité de l'accueil chez RTL, que nous allons faire ensemble, vous et moi,
avoir
la conférence
sentiment.
Sociale.
Avoir...
Non, mais moi, je vais vous dire d'abord, l'équilibre financier, ce n'est pas une lubie de budgétaire. L'équilibre financier, c'est la sécurité pour les futurs retraités du système des retraites. Si vous n'avez pas d'équilibre financier, si vos dépenses ne sont pas égales à vos recettes, vous allez rentrer dans un monde qui sera un monde totalement financier. Mmh. Et pour le coup, vous allez privatiser votre système des retraites puisque ce seront les intérêts et les marchés financiers, là où vous allez emprunter, qui va payer votre retraite. Donc l'équilibre financier, c'est la sécurité. Il n'y a pas plus social que l'équilibre d'un système de protection sociale.
En attendant,
sociale.
Où on trouve les ressources pour que ce système soit
à
l'équilibre.
Il y a plusieurs possibilités. Le Premier ministre, dans sa lettre, a exclu, après des consultations, un certain nombre de choses. Donc pas de baisse des pensions, ça répondra en partie à vos demandes de financement. Il n'y aura pas de baisse des pensions. Il n'y a pas d'augmentation du coût du travail, notamment pour les entreprises de France, mais il y a plein d'autres possibilités. Le gouvernement continue à penser que l'âge, et singulièrement le fait de travailler un peu plus comme tous nos partenaires autour de nous, est une solution, et il le proposera. Il y a la possibilité effectivement de travailler sur ce qu'on pourrait appeler les charges du travail pour les patrons, avec un peu plus de cotisations par-ci, un peu moins de cotisations par-là, il faudra y travailler.
Ah oui, c'est ça, un jeu de bonneteau sur les cotisations.
Mais pour que ça ne coûte pas plus cher, je crois que Mme Hendaye l'a dit déjà dans un micro d'une radio concurrente, pour que ça ne coûte pas plus cher, évidemment, aux entreprises de France, et puis il y a la proposition des salariés, notamment de l'UNSA ou de la CFDT.
Tiens, il y a un effet pervers de la réforme des retraites, c'est que les clubs de foot professionnels pourraient gagner entre 150 000 et 500 000 euros. Grosso modo, les clubs sont les clubs qui payent les charges et les impôts des joueurs. Et donc, il y a un plafond dans la réforme de 120 000 euros qui avantage tous ceux qui gagnent plus de 10 000 euros. Donc, c'est le cas des joueurs. Et donc, au-delà de ce plafond, les cotisations sont moins élevées. Bonjour, la justice sociale.
Non, mais c'est tout à fait faux. D'ailleurs, cet institut qui a sorti cette étude, c'est les mêmes qui nous expliquaient il y a quelques semaines, il y a eu une polémique sur le fait que les mères de famille allaient perdre alors qu'ils y gagnent. C'est quoi le problème ? Mais c'est la même erreur que M. Piketty. C'est un peu dommage d'ailleurs que des gens aussi intelligents répètent des choses bêtes aussi évidentes. Vous avez jusqu'à aujourd'hui, c'est la réforme des retraites, lorsque vous gagnez jusqu'à 120 000 euros, trois plafonds de la sécurité sociale, trois passes parfois on dit techniquement, vous avez une cotisation qui va baisser. Elle était de 28% pour en dessous de 120 000 euros. Elle sera beaucoup moindre, de 2,8% pour au-dessus de 120 000 euros. Et vous n'avez pas de protection sociale qui correspond à ces cotisations. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on dit, c'est un peu plus juste, que les cadres, eux, ils vont perdre un petit peu de leur protection sociale. Et on va dire que c'est 95%, 96% des salariés français qui sont concernés par moins de 120 000. Et puis il y a 3-4% des salariés français qui sont au-dessus
de
ces 120 000. C'est tout à fait faux, parce que c'est même plus que faux, il y a au-dessus de ces 120 000 euros, de ces joueurs de football par exemple, une cotisation qu'ils vont payer, qui va payer la retraite à 1 000 euros des agriculteurs, alors qu'ils n'auront pas la protection sociale qui correspond à leur cotisation. Donc j'ai vu l'article du Figaro qui reprenait cet institut, et malheureusement cette étude est fausse.
Un des sujets qui vous concerne très directement, vous, ministre du Budget, dans le dossier des retraites, c'est la revalorisation des enseignants. Le ministre Blanquer a annoncé 500 millions d'euros pour les enseignants. Ça, c'est pour les nouveaux enseignants, pour tout le monde ?
Bah, si ça rentre, comme l'a dit M. le ministre de l'Éducation nationale, à partir de 2021, vous aurez constaté que ça rentre avant même la rentrée dans l'atmosphère de la réforme des retraites, qui, pour les nouveaux entrants, commence à partir de 2022. Donc, le gouvernement mettre en place ce que le président de la République s'est engagé à faire, c'est-à-dire à la fois une réforme des retraites qui touche les enseignants, mais une augmentation de leur salaire.
Ça va peser sur le budget ?
Ah bah, toute dépense pèse sur le budget, mais le budget, c'est des choix. Donc nous augmentons chaque année d'1 milliard d'euros le budget du ministre de l'Éducation nationale, depuis que je suis ministre des Comptes publics.
Ça va peser sur le déficit aussi ?
C'est un choix que nous faisons. Bah non, parce qu'on fait des économies par ailleurs. Je constate d'ailleurs que lorsque je viens à votre antenne faire des annonces, elles sont tenues.
Un déficit de près de 100 milliards d'euros en 2019, quasiment.
Non, non.
93
Justement, ça me permet de le dire. 98 milliards, c'était le déficit qui a été voté par la loi de finances pour l'État. Et nous sommes désormais aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, autour de 93 milliards. En exécution, nous avons
L'Allemagne
baissé.
L'Allemagne fait 13 milliards d'excédent budgétaire.
Bien sûr, évidemment. L'Allemagne fait 13, parce que l'Allemagne a fait beaucoup de réformes. Et l'Allemagne, depuis 30 ans, a fait des réformes qu'on n'a pas faites. Donc forcément, ça a un avantage. Et je préférais peut-être être ministre allemand du budget pour répartir l'argent plutôt que pour dire où est-ce qu'il faut le diminuer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tenu, malgré le grand débat, malgré les gilets jaunes, nous avons tenu notre budget. Nous serons toujours à 3,1% de déficit. On a fait 1 milliard d'euros d'économies dans l'année 2019, en plus de ce que nous avions dit. Et par ailleurs, nous avons baissé le déficit de l'État de 98 à 93 milliards depuis quelques mois.
Gérald Darmanin, à votre connaissance, Ségolène Royal est encore ambassadrice des pôles ?
Je ne le sais pas, mais je constate comme tout le monde que le Quai d'Orsay lui a écrit et qu'elle a manifestement répondu.
Est-ce que vous estimez qu'elle n'a plus rien à faire à ce poste ?
Enfin, moi, je ne sais pas à moi de prendre cette décision. Je pense qu'effectivement, quand on est nommé par le président de la République à des postes aussi importants, un devoir de réserve s'impose. Et quand on veut faire de la politique, on doit faire de la politique, indépendamment des nominations. Mais moi, je respecte le parcours de Mme Royal, qui devrait tenir son devoir de réserve, mais je ne me sens pas... J'ai la jeunesse qui empêche de juger quelqu'un qui a eu une grande carrière politique. Peut-être devrait-elle refaire de la politique et pas attendre une nomination du président de la République.
Vous n'insultez pas l'avenir, on dirait.
Non, moi je respecte mes aînés. Voilà.
Merci Gérald Darmanin.
Merci beaucoup. Le président Macron est celui qui aura baissé le plus les impôts des Français sous la 5e République, vient de nous dire Gérald Darmanin. Entreprises et particuliers, ajoute le ministre des Comptes Publics. Cela appelle bien entendu une chronique à venir de François Langlais.
Ça avec beaucoup d'application.
Oui, on n'est pas tout transfert tout à fait en Allemagne, d'ailleurs. Puisque vous venez de nous dire que vous préférez être ministre des Comptes en Allemagne.
Singulièrement à Tourcoing. Non, Tourcoing est en France.
Je me doutais bien que vous alliez revenir sur vos propos. L'entretien.